Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui, on va découvrir une région particulière du nord-ouest de la Chine, oui. Le Xinjiang.
Voilà.
C'est le pays des Ouïghours, un peuple minoritaire, colonisé, réprimé, discriminé et souvent oublié. Ensuite, Didier, c'est au Japon que tu vas nous emmener.
Oui.
Tu vas nous raconter l'étrange destin d'un samouraï que l'histoire a aussi mis de côté.
C'est ça.
C'est Jean Brunet.
Tout à fait.
On avait promis à nos auditeurs qu'on en parlerait.
Ouais, c'est important.
Et voilà. Et comme on aime bien Asiologie mettre en lumière les zones d'ombre, on va rétablir.
Là, il y a une belle. Il y a une vérité hollywoodienne à rétablir.
À rétablir, oui, oui. Et ça, voilà. C'est vrai.
C'est ça.
Rendons à César ce qui est à César. Ouais. Jean Brunet. Ce qui est à Jean Brunet.
C'est ça. Alors,
oui, Didier.
Avant de parler du peuple ouïghour, tu peux nous donner quelques généralités sur la région, parce que j'avoue que je ne connais pas bien.
Oui, alors on l'appelle région autonome ouïghour du Xinjiang.
Oui.
En français, ça veut dire Xinjiang, région de la nouvelle frontière. Elle se situe donc à l'extrême nord-ouest de la Chine, au nord du Tibet, sur l'ancienne route de la soie.
D'accord.
Et sa superficie fait un peu plus de trois fois la France, soit 16% de la surface de la Chine. Donc on peut dire que c'est une province très vaste.
Oui, oui.
Et
oui,
effectivement, elle, hein, c'est grand. Et elle compte seulement 26 millions d'habitants.
Ah oui, ils ont de la place.
Ils ont de la place.
Okay.
Voilà. Alors elle partage sa frontière avec 8 pays, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la Mongolie, l'Inde, le Pakistan, la Russie et l'Afghanistan, rien que ça.
Oui,
ça fait du monde
ça
autour.
Ça fait du monde, oui. C'est ça.
Et sur le plan physique, le Xinjiang, c'est surtout des steppes semi-désertiques, des hautes montagnes avec des forêts et des déserts au sud, dont le fameux désert du Taklamakan.
D'accord.
Voilà. Alors, sa capitale s'appelle Urumqi et compte environ 4 500 000 habitants. Et le Xinjiang, vu sa situation, forcément sans doute, a un climat extrême avec des étés torrides.
D'accord.
Et au printemps, il y a de fréquentes tempêtes de sable qui rendent la vie difficile, on s'en doute. Il ne pleut pratiquement jamais, sauf dans les montagnes. Et en hiver, ce sont des températures négatives partout.
Ah, c'est rude. Hein.
Voilà, c'est rude.
D'accord. Et alors, du coup, quelle langue parlent les habitants du Xinjiang?
Alors, il faut retenir que c'est une région qui a une grande diversité ethnique, forcément, vu le nombre de frontières qu'elle a. Il y a forcément des mélanges qui se sont faits.
J'imagine.
Et une grande diversité culturelle. Et les Ouïghours sont majoritairement musulmans sunnites.
D'accord.
Les Ouïghours sont les plus nombreux de toute cette région. Ils sont environ 11,3 millions. Il y a aussi des Kazakhs. Environ 1,6 million. Il y a aussi les Hui, les Kirghizes, les Tadjiks et les Ouzbeks, qui sont frontaliers, avec des langues, une culture et des modes de vie très différents de ceux des Chinois. Si, par contre, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Kirghizes, les Hui, les Kazakhs et les Ouïghours ont une culture quand même commune. Et donc, 10 sont donc très différents des Chinois Han, qui est, je vous le rappelle, l'ethnie majoritaire en Chine, dans Chine qu'on appelle intérieure.
Ouais.
Alors, le Ouïghour est parlé par environ 15 millions de personnes et est très proche de la langue turque.
Ah oui.
Ils sont quasi turcophones.
D'accord.
Et cette langue ressemble aussi aux autres langues d'Asie centrale. Alors, il faut savoir que là-bas, les panneaux sont bilingues, écrits en chinois et en écriture arabisée. Et beaucoup d'Ouïghours ne parlent pas ou ne veulent pas parler le mandarin.
D'accord. Alors, c'est quoi l'histoire de cette région et de son peuple, s'il te plaît?
Alors, les Ouïghours sont installés en Asie centrale depuis plus d'un millénaire. Ils étaient d'abord nomades et se sont peu à peu sédentarisés dans la région. Et ils sont la deuxième minorité musulmane chinoise après celle des Hui. Mais les Hui sont un peu disséminés sur tout le territoire.
D'accord, ils ne sont pas concentrés comme eux
non,
peuvent l'être.
Non, ils sont concentrés dans certaines villes, mais pas du tout.
Oui, sur un territoire.
Ils sont quand même différents. Et l'islam est présent au Xinjiang dès le Xe siècle, mais il s'est surtout développé à partir du XVe siècle, période à laquelle les Ouïghours se sont convertis massivement. Ouais. Alors, ils ne sont donc pas deux cultures chinoises et ils ont été rattachés à la Chine par l'empire des Qing, la fameuse dernière dynastie.
D'accord.
Au XVIIIe siècle, l'époque où le territoire chinois était le plus étendu et c'est le territoire que la Chine d'aujourd'hui veut conserver, un petit peu comme la Russie, n'est-ce pas?
Ouais.
Alors, il faut savoir que les Ouïghours appellent leur pays le Turkestan oriental.
Ah, ok.
Ouais. Et après la chute de la dynastie Qing en 1911, le Xinjiang a été dirigé par une succession de chefs de tribus contre lesquels le Kuomintang, le parti nationaliste chinois de l'époque de la première révolution, n'avait guère de pouvoir et ils avaient bien sûr d'autres chats fouettés.
Ouais.
Hein, c'était la première révolution, on s'en souvient.
D'accord. Mais alors, du coup, les Ouïghours, eux, se sont-ils révoltés ?
Plus tard, un peu. Alors, ils étaient isolés, forcément, et un peu oubliés du pouvoir central, un petit peu comme les Tibétains. Mais il y a eu tout de même une véritable tentative de créer un État indépendant dans les années 1940, lorsqu'un Kazakh du nom d'Osman, à la tête d'une révolte de Kazakhs et surtout d'Ouïghours et de Mongols, a pris le contrôle du sud-ouest de la province et a instauré la République du Turkestan oriental en janvier 1945. Mais le Kuomintang, donc le parti nationaliste chinois, avant Mao, a réussi à convaincre Osman d'abolir la nouvelle république en échange d'une autonomie pour la région.
D'accord.
Voilà, c'était planté là.
Ouais.
Et c'est pourquoi que depuis 1949, Pékin s'efforce de réfréner les envies indépendantistes.
Ah oui ?
Hein, c'est Mao qui s'en est rendu compte.
Ouais.
En poussant les colons Han à s'installer dans le Xinjiang, un petit peu comme ils l'ont fait, au Tibet.
Ouais.
Mais avant 49, les Ouïghours, faut savoir qu'ils représentaient 90% de la population et ils sont aujourd'hui moins de 50%, voir l'évolution.
D'accord.
Alors c'était ce qu'on appelait la campagne du développement de l'Ouest, qui se poursuit encore aujourd'hui.
Ah, explique-moi, pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle à ce territoire à des milliers de kilomètres de leur capitale, en fait ?
Alors c'est parce que le Xinjiang, comme le Tibet, occupe une position stratégique cruciale. Il est situé sur l'ancienne route de la soie, qui fait aussi partie du patrimoine culturel chinois. Mais c'est surtout son sous-sol qui l'intéresse, parce qu'il renferme 30% des réserves pétrolières et gazières chinoises.
Ah oui, je comprends mieux déjà. Ok, et alors, et comment ça se passe concrètement avec les Chinois, Han, et le pouvoir central ?
Alors, les Ouïghours ont toujours considéré que les Chinois, Han, comme des envahisseurs, et les relations n'ont jamais été bonnes entre eux. Mais c'est à partir des années 50 que la tension s'est accrue avec la sinisation, qui s'est intensifiée, et la discrimination liée à la présence des Han, qui imposaient déjà leur culture. Alors, c'est vrai que le gouvernement central avait quand même investi dans le développement économique et les infrastructures, mais les Ouïghours subissaient quand même une discrimination à l'emploi, et les commerces avantageux étaient surtout réservés aux Han, sans compter les activités qui étaient choquantes pour les Ouïghours, comme les élevages de porcs. Par exemple. Alors c'est surtout lors de la révolution culturelle de 66 et jusqu'à la mort de Mao en 76 qu'une politique d'assimilation dure a été mise en place. On forçait les Ouïghours à manger du porc. L'époque.
Mon Dieu.
C'était l'époque où la révolution visait à en finir avec les quatre vieilleries, les vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes et aussi les religions. Voilà, c'était donc le prétexte pour lutter contre l'islam. Et l'étude du chinois a aussi été développée aux dépens de la langue ouïghour et puis de l'alphabet arabe.
J'imagine, ça va de pair.
Voilà. Bon, j'écouterai bien une chanson ouïghour, Didier.
Oui.
Alors, tu nous mets ça ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, d'ailleurs, en fait, on parlait d'un peu d'Orient, et là, tu vas voir, il y a une petite saveur d'Orient dans cette musique quand j'ai découvert et que j'ai recherché. Enfin, je vous laisse.
On voyage alors.
Profiter.
Encore.
que vous sentez déjà un petit peu le parfum d'Orient, le oui. sable qui se lève,
ah oui, on
les
était,
épices.
Là, dans le
ah, oui, ça nous change un tout petit peu quand même. Hein.
Ouais, merci Didier, c'était ouais. très sympa.
C'est ça. Alors bon, du coup. Revenons aux Ouïghours.
Oui.
À cause de cette discrimination, c'est à cause de ça qu'est né le séparatisme ouïghour et puis du coup la répression chinoise.
Oui, oui, Didier, les Ouïghours se sont longtemps contenus, on peut le dire.
D'accord.
Donc après la mort de Mao en 76, les Ouïghours ont quand même vécu une période de calme, hein, avec la reconnaissance des minorités ethniques. Et puis dans les années 90, il y a eu l'émergence d'une élite Ouïghour avec plus de tolérance religieuse et culturelle, avec une ouverture vers l'extérieur, avec des autorisations de voyager, d'étudier à l'étranger.
D'accord.
Pour les Ouïghours, et de faire le pèlerinage à la Mecque.
Ouais.
Mais ça n'a pas été suffisant pour que tous les Ouïghours se sentent reconnus.
Mmh.
Et donc, leur ressentiment a provoqué plusieurs affrontements dans les années 90. Et il y a eu, bien sûr, des émeutes, une politique répressive, d'autres émeutes, etc.
Ouais.
Et puis, il y a eu la date funeste des attentats du 11 septembre, hein, funeste pour le monde entier,
ouais, bien sûr.
Qui a donné l'occasion au gouvernement chinois de réprimer encore plus durement le nationalisme ouïghour. Ouïghours, en emprisonnant ou en exécutant des milliers de terroristes islamistes supposés avec l'accord tacite des États-Unis et avec le silence du reste du monde.
Oh, forcément. Bon, alors, du coup, ça consiste en quoi la répression chinoise depuis les années 2000? En fait, ça se ressent comment?
Alors, il y a bien une minorité quand même qui a basculé dans le fondamentalisme hein, et le séparatisme, qui mène des actions violentes, mais cette menace n'est pas du tout proportionnelle à la répression subie par tous les Ouïghours, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013.
Bah, on en entend quand même pas mal parler. Hein,
voilà.
Enfin, pas mal.
Alors, ça s'est un peu arrangé quand même récemment, on va voir
d'accord.
ça.
Okay.
Alors, il y a eu les attentats de Pékin hein, en 2013, avec une voiture piégé, mais qui n'a pas explosé. Elle a fait seulement deux touristes.
Mal
il y a eu surtout ceux de la gare de Kunming en 2014 qui feront, alors c'était un truc vraiment horrible, hein, 31 morts et 143 blessés à l'arme blanche dans la gare.
À l'arme blanche?
Oui.
Waouh.
Voilà, à l'arme blanche. Donc c'était absolument épouvantable.
J'imagine.
Et il y en a eu un autre à Urumqi hein, qui a fait quand même un mort, 79 blessés.
Mmh.
Et ces attaques ont traumatisé vraiment la société chinoise, on peut le comprendre.
Ouais,
hein, la gare de Kunming, c'était terrible. Et Xi Jinping va vouloir donc régler le problème ouïghour en faisant disparaître toute forme de contestation. Voilà. Et il veut en fait éradiquer la culture, il voulait éradiquer la culture ouïghour considérée comme l'origine du séparatisme.
D'accord, alors même si j'ai une petite idée, ça se traduira comment cette éradication de la culture ouïghour?
Alors, aller à la mosquée sera interdit, comme le pèlerinage à la Mecque.
Ouais.
Les prénoms islamiques ou simplement turcs seront proscrits. Les Ouïghours qui se laissent pousser la barbe, celles qui portent le voile, ceux qui ont un coron chez eux, seront emprisonnés à cette époque, hein, vers les années, un petit peu avant, après 2013.
Hein.
Et il y avait des limitations pour observer le ramadan pour les fonctionnaires. Et puis, comme au Tibet, les enfants seront placés dans des internats et éduqués selon les bonnes traditions chinoises.
Voilà.
Et selon le parti communiste.
Bien sûr.
Et puis les parents, ils sont internés dans les fameux camps de rééducation qui sont appelés en chinois centres de formation professionnelle par la propagande. Alors selon les ONG, hein, Human Rights Watch et puis Amnesty, il serait 1 million de Kazakhs et d'Ouïghours hein, dans ces centres de formation professionnelle, soit à peu près quand même presque 10% de la population.
Mais ça fait quand même beaucoup.
Voilà, sans compter, je dirais, les attaques larvées contre les sociétés civiles, avocats, défenseurs des droits de l'homme, etc.
Le panel classique, malheureusement.
Le panel classique.
Et on peut parler de génocide ou pas? Enfin, que fait la France contre cette oppression, cette agression?
Alors, les militants ouïghours utilisent le terme génocide car la politique chinoise vise à les réduire démographiquement par l'entrave aux naissances avec les stérilisations imposées.
Ah, rien que ça.
Oui, mais c'est ce qu'ils pratiquaient déjà lors de la politique de l'enfant unique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau.
Oui,
hein, c'était donc des stérilisations imposées et des pauses forcées de stérilets, de ligatures des trompes.
Ouais.
Contrairement, c'est sûr que dans les familles musulmanes ouïghours, avoir beaucoup d'enfants, c'est bien. Donc ça va effectivement à l'encontre de ce qui se pratiquait en Chine, de toute façon, jusqu'à récemment.
Ouais.
Hein, voilà. Et donc, il faut des autorisations pour faire un enfant, voilà, okay. Là-bas. Alors, Raphaël Glucksmann, un eurodéputé, est très impliqué pour la cause des Ouïghours. Lui, il préfère parler d'ethnocide ou de génocide culturel lié à la peur qu'a le parti chinois d'un effondrement de son pouvoir, ouais. Comme il y a eu en URSS. Ouais, il y a eu aussi Jean-Yves Le Drian, un ministre des Affaires étrangères en 2017, qui a très officiellement et très ouvertement critiqué la politique chinoise au Xinjiang. Et ça a eu comme effet une réelle prise de conscience en Europe, avec des actions d'associations de défense des droits humains.
Oui, à ce moment-là, on en a entendu pas mal parler.
Voilà, en fait. Et ça a mené à des campagnes de boycott de marques occidentales de vêtements fabriquées dans les camps.
D'accord.
Il faut savoir qu'il y a quand même une plus d'une quarantaine de marques occidentales qui sont vendues et qui sont concernées aujourd'hui.
Oui,
je ne vais pas les nommer, mais on les trouve sur Internet.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Alors, y a-t-il une évaluation plus favorable donc, pour les Ouïghours depuis la mobilisation internationale? Ça a changé quelque chose?
Oui, c'est un petit peu mieux depuis 2 ans, hein, car la Chine, on sait la Chine très pragmatique, elle préfère jouer sur la stabilité dans la région vu ses richesses pétrolières, minières et touristiques.
Eh oui.
Voilà, comme au Tibet, Pékin veut développer le tourisme et pour cela modernise les infrastructures. Faut pas oublier que le Xinjiang, c'est la route de la soie et ça fait rêver.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Je l'accorde que ça
en plus
faire
des en plus des réserves pétrolières et minières et gazières. Alors on peut maintenant se rendre là-bas facilement en avion, en train ou même en bus.
Ah, en bus, oui, voilà. Ça va être plus long quand même. D'accord.
Bon, bah, écoute, on quitte le Xinjiang pour le Japon, Didier.
Oui, oui, oui.
On écoute Samurai Champloo, c'est la BO du dessin animé.
C'est ça, je voulais un peu illustrer le côté samouraï.
Voilà, on quitte la route de la soie.
C'est ça, là, on va carrément vers le Japon. Et c'est parti pour une petite musique bien sympathique.
Alors, c'était Shiki no Uta de Samurai Champloo.
Oui.
Bon, Didier, on part donc retrouver le Japon et tu vas nous raconter l'histoire incroyable d'un Français méconnu.
Exactement.
Devenu réellement samouraï.
Et oui.
C'est le fameux Jean Brunet. Enfin,
c'est
le fameux.
Ça.
On le connaît pas assez.
Non,
pour
non,
dire
on
ça.
Le connaît pas comme ça, en tout cas, bien
non,
sûr.
Non.
Puisque bon, alors, avez-vous vu le film Le Dernier Samouraï, réalisé en 2003 par Edward Zink? Le film raconte l'histoire complètement fictive du capitaine américain Nathan Holgrin, interprété par
Tom Cruise.
Merci.
Oui.
Capitaine envoyé au Japon pour entraîner les troupes de l'empereur Meiji contre les samouraïs. Holgrin se fait capturer et il va finir par se rallier à leur cause. Le film est très librement inspiré de l'épisode bien réel, lui, de la guerre du Boshing au 19e siècle et de l'histoire de Jean Brunet, un officier français qui ne se serait jamais douté qu'il deviendrait un héros du cinéma américain dans une histoire bien différente de la réalité.
C'est incroyable, vraiment, ça.
Eh oui.
Moi, je suis dégoûtée.
Alors, ah, c'est ça.
Qui était Jean Brunet,
alors,
Didier ?
Qui était Jean Brunet ? Jean Brunet, c'était un officier français envoyé au Japon dans le cadre d'une mission d'instruction. Il est né le 2 janvier 1838 à Belfort. Son père était vétérinaire militaire. Après son baccalauréat, il va se présenter au concours de l'école militaire de Saint-Cyr et sera reçu. Mais il va démissionner quelques temps après pour passer le concours de l'école polytechnique qu'il va intégrer en 1857. Et à sa sortie, il rejoindra l'école d'application de l'artillerie et du génie à Metz. C'était un jeune officier très brillant.
Alors, où va-t-il commencer sa vraie carrière militaire ?
Ah, on est loin du Japon, on va au Mexique. On a un peu oublié que la France, sous Napoléon III, avait conquis le Mexique pour défendre ses intérêts. Et installer Maximilien d'Autriche comme empereur, mais ça, c'est une autre histoire. Jean Brunet faisait partie de cette expédition mexicaine comme lieutenant. Il s'y est fait reconnaître par son courage et ses faits d'armes. Lieutenant Brunet correspondait à l'officier modèle que le ministère cherchait pour sa future mission française d'instruction au Japon, pays en pleine phase d'ouverture sur le monde. Il n'avait que 28 ans.
Alors, où en était le Japon sur le plan historique à la fin du 19e siècle ?
Alors, en 1866, le Japon vivait encore sous un système féodal et avait décidé de s'ouvrir petit à petit en signant de nombreux traités commerciaux avec des pays occidentaux comme l'Angleterre, la Russie, la France ou encore les Pays-Bas. Et le Japon souhaitait moderniser son armée. Le chef militaire, le shogun Tokugawa avait d'abord pensé à l'Angleterre, mais ce sera la France qui sera choisie. Mmh. Les autorités des deux pays vont s'entendre pour une délégation militaire française vienne instruire l'armée japonaise du shogun. Et alors, le 19 novembre de la même année, l'expédition embarque à Marseille. Et elle était constituée de 5 officiers, dont Jean Brunet, et 5 sous-officiers et 5 militaires du rang, tous spécialisés et issus des trois armes, l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie. La mission était prévue pour 3 ans. Comme le rappelait leur contrat, la finalité de la réorganisation n'était pas de copier ce qui se faisait en France, mais de tirer parti des aptitudes et des habitudes militaires du pays en les améliorant. En résumé, ils devaient adapter leur enseignement.
Alors, quelle a été précisément sa mission au Japon à Jean Brunet ?
Alors, il va d'abord faire un recensement du matériel de guerre japonais et plus particulièrement de l'artillerie, sa spécialité. Il va constater que les canons sont mal entretenus. En fait, tout le matériel est en mauvais état. Ils vont donc tout réorganiser avec leur expertise dans la fabrication des armes et des munitions. Ils vont aussi entraîner les militaires, particulièrement les officiers. Et comme il y avait un collègue franco-japonais à Yokohama, certains officiers japonais y avaient appris le français pour servir d'interprète, en fait.
Alors, quel était le contexte historique de cette époque précise, là, quand ils sont arrivés au Japon ?
Alors, à la fin du 19e siècle, au Japon, deux camps s'affrontaient. Hein, celui du Mikado, le camp de l'empereur qui détenait le pouvoir symbolique et spirituel, et celui du Shogun, qui avait le pouvoir politique et militaire,
on avait
forcément.
Parlé de ça,
voilà, on en a déjà évoqué. Alors, l'empereur Meiji, avec ses partisans nationalistes, avait soutenu soutenu par l'Angleterre, tandis que le shogun, lui, le fameux Tokugawa, était soutenu par la France.
D'accord.
Qu'il avait sollicité pour l'instruction de ses troupes et la modernisation de son armement. Mais l'empereur, aidé par les Anglais, avait devancé le shogun dans la modernisation de son armée, et le clan Tokugawa va être mis en difficulté, en fait. Alors, la France va lui rester fidèle jusqu'en février 1868, date à laquelle elle adopte une position de neutralité. La mission militaire est alors rappelée, et Jean Brunet aussi. Mais il va refuser de quitter le Japon. Il a voulu continuer à se battre aux côtés du shogun et de ses samouraïs. Et ce sera la guerre du Boshin.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre du Boshin ? Qu'a fait Jean Brunet pour devenir le vrai dernier samouraï ?
C'est ça. Alors, le renvoi de la mission militaire française a été décidé officiellement en septembre 1868, mais Jean Brunet, devenu capitaine, va démissionner par fidélité à la parole donnée.
Vrai samouraï.
C'est ça. Eh bien oui, déjà. Donc, sa démission sera refusée, mais il y aura un congé sans solde pour un an. quelques officiers français vont le rejoindre pour aider le shogun qui était retranché avec ses troupes dans une île dans le nord du Japon. Le siège durera 6 mois et Jean Brunet et ses hommes tiendront tête jusqu'au bout face aux troupes impériales et finiront par s'enfuir avec un navire français venu en renfort.
Donc Jean Brunet va revenir en France, Didier, oui. Et il va continuer sa carrière. Il a eu un parcours incroyable. Quelle a été sa fin de carrière, Didier ?
Alors, le gouvernement impérial japonais considérait que les Français s'étaient joints à la rébellion et officiellement, le capitaine Brunet et ses hommes seront condamnés, renvoyés de l'armée, mais officieusement, ils ne seront pas en fait. Mais il sera demandé la plus grande discrétion. Jean Brunet va continuer sa carrière en participant à la guerre contre les Prusses. Il sera fait prisonnier, il sera décoré de la Légion d'honneur par Napoléon III à sa libération. Eh oui.
Et à la fin de sa carrière militaire, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Eh bien, écoute, malgré tout ça, il est devenu général. Il a reçu de nombreuses décorations françaises et japonaises aussi. Grand officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre militaire du Soleil, puis grand officier du Trésor sacré du Mikado.
Mais ça c'est classe.
Ça impose un petit peu. Oui, je pense que là, sur la poitrine, ça doit imposer. En remerciement, donc, pour sa bravoure en tant que samouraï.
Et voilà.
Et il est mort le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois. Un destin exceptionnel. Quand même.
Oui, mais merci Didier. Bon, Asialogie, c'est fini les amis. Oui. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com.
On vous dit à jeudi. Et oui.
On vous espère nombreux.
Bien sûr.
À bientôt. Et toujours sur Radio Alpa, bien sûr.
À bientôt. Bonne semaine. Takashima Yamae de Boquete.